L'actualité des luttes. L'actualité des luttes. L'actualité des luttes.
Actu-lutte.
L'actualité des luttes. L'actu à lutter débute.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur les ondes de Radio Campus avec le poil à gratter. Le poil à gratter, heureuse famille composée aujourd'hui des membres autour de moi. Florent, qui est juste à côté de moi, avec ses doubles lunettes. Clémence et Anna. Et donc aujourd'hui, nous revenons avec notre émission mensuelle, donc tous les premiers samedis du mois, à 10h. Et donc ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la famille. Voilà, la famille, avec un programme alléchant. Nous allons commencer avec un petit son de France Culture. C'est une lecture de Le Tellier au sujet de la filiation. Et nous aurons ensuite un son qui a été réalisé par Anna, intitulé « Un petit bonhomme qui a un peu peur ». Voilà. Il s'agit d'une histoire d'un enfant qui est né entre deux pays, entre deux cultures, et qui est devenu le papa d'Anna. Nous aurons ensuite une lecture de Clémence, intitulée « Vagin de famille ». On va voir un petit peu ce que ça donne. Nous aurons ensuite un son de Florent sur la famille Blanchot, une tranche de vie. Clémence reviendra ensuite sur un point juridique autour de la GPA, la gestation pour autrui, et nous terminerons l'émission avec un objet sonore mal identifié, un peu expérimental, de Ben qui vous fera flotter aux abords et sous le chapiteau du Cirque Plume. Voilà, bonne émission, et nous commençons avec un petit son de France Culture.
Je ne m'inscris nulle part. J'ai décidé de n'être rien, ce qui, je le confesse, demande peu d'efforts, et de m'en réjouir, tant cela me paraît protégé du fantasme identitaire. J'ai conscience qu'on pourrait défendre l'absolu contraire, que l'ouverture aux autres n'est véritable que si l'on repose soi-même sur un solide socle. Mais l'appartenance est un terrain glissant, et l'équilibre mental du constructeur d'arbres généalogiques, cet être si désireux de dépendre, de descendre autant que de remonter m'a toujours paru vacillant. L'arborescence prétentieuse de ces constructions familiales m'évoque les empreintes de fuite que laissent dans la neige les animaux qui tentent de s'échapper du prédateur. Il me plaît bien plus à moi de savoir que voici 800 millions d'années, mon ancêtre commun avec l'étoile de mer est un animalcule sans anus.
Alors c'était Hervé Le Tellier, extrait de « Toutes les familles heureuses ». Et on continue avec l'histoire d'un petit bonhomme qui avait un peu peur, mais qui était aussi fier.
T'es prêt, papa ?
Oui, tu m'interroges maintenant ?
Bah, si... Si t'es OK ?
Oui, t'as rien préparé, hein.
T'as pas besoin de préparer un truc ?
Ouais.
Tu veux qu'on se mette là ?
Ouais.
Ok.
Je vais mettre mes lunettes.
Alors d'abord, j'aimerais que tu me racontes ton parcours entre la France et le Maroc dans l'enfance.
Alors dans l'enfance, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 3 ans. J'ai plutôt été élevé par ma grand-mère que par ma mère, parce que ma mère est assez vite partie rejoindre mon père au Maroc. Et j'imaginais pas qu'il y avait un mode de vie, un monde différent du monde dans celui que je vivais. Parce qu'on me l'avait pas dit, ou même si on me l'avait dit à cet âge-là, c'était un peu difficile de se rendre compte. Et le jour de mes 3 ans, pile, c'est un hasard, j'ai pris le bateau avec ma grand-mère pour aller rejoindre ma mère et mon père au Maroc, à Casablanca. Donc c'était en 1950, hein, une époque où la civilisation marocaine était beaucoup moins ouverte sur l'Occident, et c'était beaucoup moins occidentalisé que maintenant, ou que même 20 ou 30 ans plus tard. Et j'ai été un peu plongé dans la civilisation marocaine musulmane traditionnelle des siècles précédents. Alors, avec ma mère et mon père, on habitait un appartement à part, ce qui n'est pas la tradition dans le monde musulman marocain de l'époque, et ça l'est même peut-être encore, ou du moins ça l'a été longtemps. Il était traditionnel que le père, les parents, quand leur fils vient de se marier, ils logent le fils, la bru, la belle-fille et les enfants pendant quelques années, pendant que celui-ci s'établit petit à petit professionnellement, et pour lui laisser le temps de s'établir de façon assez confortable, en achetant une maison, en étant logé. Il ne s'indépendantise matériellement de ses parents. Il ne s'indépendantisait matériellement de ses parents qu'au moment où il avait atteint un certain niveau d'argent. Hein.
Et comment tu expliques que, du coup, vous, finalement, vous aviez un appartement à part?
Parce que ma maman était française et qu'elle a refusé d'aller vivre chez ses beaux-parents. Je pense pour plusieurs raisons. Parce qu'en France, c'était pas la coutume de vivre chez ses beaux-parents pendant quelque temps. Et la deuxième raison, c'est parce que c'était une civilisation différente et qu'elle acceptait à petite dose, mais pas à grosse dose, de façon constante. Et donc ça a fait que effectivement le contact avec ma famille marocaine aurait pu être plus dense et peut-être plus stressant, mais je me serais mieux intégré, je pense, si j'avais vécu de façon traditionnelle, en changeant de société complètement, étant pas mêlé avec eux. J'ai pas appris petit le mode de vie marocain, et d'autre part j'ai effectivement pas appris l'arabe marocain, parce que la plupart d'entre eux parlaient français, et quand ils ont voulu que j'apprenne l'arabe, ils m'ont fait donner des cours d'arabe classique qui est complètement différent de l'arabe marocain, donc j'apprenais rien du tout, et ça a été un handicap.
Donc du coup, t'as vécu combien de temps dans cet appartement et avec qui ?
Donc dans cet appartement, j'ai vécu 3 ou 4 ans avec, il y avait mon papa que je voyais peu parce qu'il travaillait beaucoup, qu'en plus il faisait de la politique, donc le soir il sortait à ses réunions politiques, donc ma maman, et souvent il y avait ma grand-mère de France qui, comme elle était un peu dominatrice, elle venait vérifier que j'étais pas laissé sur le, que j'étais, qu'on s'occupait de moi. Et...
Donc la mémé, oui. Ta grand-mère, ouais. Elle a fait des allers-retours entre France et Maroc.
Oui. Oui, ma grand-mère a fait des allers-retours entre France et Maroc. Je peux plus me dire maintenant combien de temps elle a passé en pourcentage sur les 4 ans, mais je sais que de temps en temps qu'elle était souvent là, oui. Qu'elle était souvent là pour s'occuper de moi. Hein. C'est...
Et est-ce que au Maroc, tu sentais que ta famille marocaine te traitait différemment des autres enfants?
Non, ils m'auraient traité pareil. Hein. Ce qui le fait quand j'étais traité de façon différente, c'était dû au fait que je vivais pas bien parmi eux. C'était au fait que j'étais différent, à mes réactions à moi. Non, ma famille marocaine m'a considéré comme un membre de la famille à part entière. À part entière, oui, là, il n'y a aucun problème. Des fois, ils m'engueulaient de ne pas parler arabe, mais c'était pas méchamment, c'était pas... Non, j'étais un membre de la famille à part entière. Hein.
Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué dans ta famille ?
Oui, bien sûr, il y avait mes cousins, hein, parce qu'il y en avait qui avaient mon âge ou un âge voisin du mien, avec qui je jouais beaucoup quand j'allais les voir. Parce que j'étais petit, les enfants, le plaisir d'un enfant petit avant tout, c'est de jouer. Et tu m'as dit les personnes qui, dans ma famille, y avait mon grand-père qui avait une forte personnalité, qui gueulait beaucoup, mon grand-père marocain, ma grand-mère, hein, mes oncles et mes tantes.
Du coup, vous êtes revenu en France à quel âge et puis est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Oui, alors au bout de quelques années, mon père et ma mère se sont séparés, puis ils se sont remis ensemble. Et à ce moment-là, j'ai eu plus de rapports avec mon père.
Alors, c'était à quel âge ?
Là, j'étais en CP, hein. Donc à l'âge qu'on a quand on est en CP, hein. J'avais ni avance ni retard, et donc ça devait faire 6 ans, 6 ans et demi. Et puis mon père a été tué, hein, parce qu'il faisait de la politique, il a été assassiné par des Français d'extrême droite qui étaient pour la colonie, le maintien de la colonisation. Donc à ce moment-là, on est quand même resté au Maroc avec ma mère. Et puis après, elle avait rencontré un Français avec qui elle devait se remarier et qui est mort dans un accident de voiture. Donc là, on est rentré en France. À ce moment-là, on a passé encore un an au Maroc et puis on est rentré en France. J'allais rentrer en sixième. J'avais ni retard ni avance. Hein, donc ça doit faire 11-12 ans, je pense, quand on rentre en sixième.
Et quand tu es revenu en France ? Là, avec qui tu vivais ?
Là, tu vivais la première année, c'est ma grand-mère qui nous logeait dans la maison familiale. Il y avait mon oncle français qui vivait seul, qui était divorcé, ma mère, et puis après, on a eu un appartement avec ma mère.
Donc là, il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est ton oncle ?
Ben, c'est mon oncle, oui, de France, qui avait été quand même toujours important pour moi, parce que comme quand je vivais au Maroc... je revenais 3 mois, les 3 mois de vacances en France, donc mon oncle s'occupait de moi, comme il n'avait pas d'enfant, oui, il s'occupait de moi particulièrement, comme il aimait beaucoup les enfants et qu'il n'en avait pas à lui, oui.
Et finalement, la grand-mère aussi, elle t'a suivi tout le long de ton enfance ?
Tout le long, oui, tout le long, au Maroc et en France, oui, oui, oui.
Et est-ce qu'il y a des images qui te reviennent d'enfance, finalement, où tu étais heureux en famille ?
Oui, alors je pense que tu me poses la question vis-à-vis de ma famille marocaine. Hein,
oui, c'est...
Qu'est-ce qui me souvient une fois où mon père m'avait emmené à la piscine avec mes oncles et j'avais un peu peur parce que j'avais des rapports un peu distants avec mon père. Que je connaissais pas beaucoup, qui s'occupait pas beaucoup de moi. J'étais fier, mais j'avais un peu peur aussi. Toujours ce truc, cette notion que j'étais pas complètement dans mon monde avec ma famille marocaine, petit. Des bons moments, qu'est-ce que Après la mort de mon père, je me souviens que. C'était mon oncle Abdelhak qui venait peu après Mon père, je crois qu'il était un peu plus jeune, qui était hébergé par mon grand-père avec sa femme et ses deux enfants aînés. Puis après, il y a eu le troisième. Donc il a été hébergé longtemps. Et comme on allait souvent chez mon grand-père, là, j'ai joué beaucoup avec ses enfants. Oui. C'était une source de jeu et de camaraderie et ça faisait bien que mon père soit mort, il y avait une proximité importante.
Et en France, donc à 11 ans, est-ce que tu te souviens d'images aussi qui t'ont marqué dans ta famille?
À 11 ans, quand je suis
Enfin,
revenu.
quand t'es revenu?
Oui, ce qui m'a marqué, c'est que comme on avait du fait d'abord de la mort de mon père et ensuite de la mort de mon beau-père, on avait quand même bien été seul longtemps au Maroc avec ma mère, malgré la proximité de ma famille marocaine. Et c'était de trouver un entourage familial avec ma grand-mère et mon oncle. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis revenu. Donc là, ça n'a pas trait au fait du différent, la différence de civilisation, et ça a trait au fait que mon père puis mon beau-père étaient morts de façon dramatique. D'autre part, effectivement, peut-être que la petite barrière qu'il y a toujours entre ma famille marocaine et moi, tombé quand je me retrouvais en France avec la famille française.
Et qu'est-ce que tu perçois dans la différence là, enfin aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois comme différence dans la façon d'élever un enfant?
J'ai un peu l'impression que l'enfant appartient plus à la famille, appartenait plus à la famille dans le monde marocain que dans le monde français, et que l'enfant appartient plus à ses parents dans le monde français. Donc ceci dans les années 50, hein, parce que la situation a évolué depuis. Au Maroc, il appartient plus à ses parents, mais les relations néanmoins de la famille, dans la famille, extra-nucléaires sont beaucoup plus étroites au Maroc qu'en France, même maintenant, de 2017.
Ok, merci.
Voilà.
Toujours tout, dernier de la classe, élève dissipé. Mais que font ses parents, un élevage de morons? Ils en ont une tribu plus nombreux que les pions, qui en sont dépourvus des jumeaux, des triplés, et même des quadruplés. Bonne chance, mon professeur, et mettez-y du cœur. On vient l'aborder sur des problèmes de crasse, d'oral et d'édicté. Mais que font ses parents, les allocs familiales, pour préserver l'amour des parents de ses filles, qui font sa nuit et jour des jumeaux, des triplés et même des quintuplés. Ils nous donnent des enfants qui viennent tous en chantant. Ils chantent.
Quand on est frères et sœurs. avec sa sœur aînée. Tu chopes de la poitrine à force de redoubler. Mais qui sont ces enfants assis au fond de la classe? Ils sont une tripotée, le même nom, la même face. Et tous le doigt dans le nez, des jumeaux, des triplés. Et même des quintuplés. C'est bien plus qu'une famille. Voilà une escadrille.
À quoi ressemble mon vagin? Vous êtes déjà posé la question, vous? Moi, la première fois que je me suis posé la question, c'est après avoir lu les monologues du vagin. À quoi il ressemble? Je me suis même demandé, est-ce que mon vagin ressemble à celui de ma mère? Est-ce qu'on aurait des vagins de famille comme on a des nez de famille? Moi, c'est pas de bol, on m'a toujours dit que mon nez ressemble à celui de mon père. Parce que j'ai appris aussi que, quand on est un fœtus, il y a à un moment un processus chimique qui fait que d'un même organe de départ, ça devient mâle ou femelle. Ça donne une jolie cavité douillette ou un petit bout de chair qui pendouille. Mais oui. Non, je me suis posé la question parce que j'ai appris que ma mère a un vagin renversé. Moi, j'imagine qu'un vagin renversé, ça veut dire qu'au lieu d'être à la verticale, il est à l'horizontale. Ou l'inverse. C'est ma sœur qui m'a dit que ma mère lui a dit que sa gynéco lui avait dit qu'elle avait un vagin renversé. La gynéco de ma sœur, qui est aussi celle de ma mère, et oui, je vous préviens, c'est une histoire de famille, lui a dit qu'elle aussi avait un vagin renversé et que la conséquence de tout ça, c'est que la levrette saignait. Bref, c'est ma sœur qui m'a dit tout ça. À la fois, on imagine mal ma mère me dire « Écoute ma fille, tu as peut-être un vagin renversé, alors la levrette saignait. » Quoique. La gynéco a aussi dit à ma sœur qu'elle avait un vagin triste. Vous imaginez ce que c'est un vagin triste, vous ? Moi, j'imagine un vagin déprimé, les parois blafardes, la tête glaireuse en larmes. Eh ben non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Un vagin triste, c'est un vagin qui ne régule pas bien son écosystème, dont la flore vaginale est fanée. C'est l'hiver du vagin, ou plutôt le désert. Des fois, son vagin est si sec qu'elle a de petites crevasses. Le désert, le Sahel. Bon, là, je m'égare. Je me suis même demandé, est-ce que mon vagin ressemble à celui de mes aïeuls ? Vous êtes déjà imaginé le vagin de votre grand-mère, vous ? Allez-y, essayez. Imaginez le merveilleux vagin de votre grand-mère. Bon, à l'âge que vous voulez, son jeune vagin de jeune fille, son vagin par lequel est passée votre mère, son vieux vagin barbu. Ah là là. Le vagin de ma grand-mère. Le vagin de ma grand-mère, c'est toute une histoire, vous savez. Une histoire triste. J'imagine son vieux vagin fatigué, son vieux vagin torturé. Est-ce qu'il s'est remis de ses tortures? Est-ce qu'il a des cicatrices? Parce qu'un nez cassé, ça se voit, mais un vagin cassé. Est-ce qu'à force qu'il y ait des nez cassés dans une famille, on naîtra avec des nez cassés? Qui sait? Qui dit que le vagin de ma mère ne s'est pas renversé par rébellion? Renverser les vagins! Si je peux me permettre, je vais vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Parce que l'histoire de son vagin, c'est elle qui me l'a racontée. Je l'écoute. J'espère que les mots qu'elle me dit sont une pommade pour son pauvre vieux vagin. Vous voyez, j'ai commencé guillerette, peur de rien, et là c'est plus dur. La pudeur revient. Je ne veux pas, la pudeur c'est du cache-vagin cassé. Comme les lunettes de soleil sur l'œil au beurre noir. Mais comment vous dire? Comment on est venu à parler de ça? Ça a commencé avec sa naissance. Elle m'a raconté comment elle est née d'une fille mère. Une femme, sûrement violée par une bande du village. Une femme triste, brisée. Elle m'a raconté comment elle s'est mariée après la libération avec un homme qui a exigé d'elle, tous les soirs, un rapport sexuel. On se demande qui était libérée. Je n'ai jamais aimé, elle m'a dit. En 28 ans de mariage, pas une fois. Tous les soirs,
Ma grand-mère a vécu 28 ans en état de siège. On ne risque pas d'en parler de ça dans les livres d'histoire. Et on en hérite de ça? Et moi, à quoi ressemble mon vagin? Mon Panther Pan, mon cœur est un champ de bataille. Tumulte, mars 2010.
Alors moi, dans ma famille, on a la verge qui se fend la poire. Et je vais continuer à vous emmener dans de l'intime, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'enregistrer sa famille. Souvent, on y apprend des choses sur soi. Et j'espère que, à travers ce fragment de vie que j'ai enregistré, vous apprendrez aussi des choses sur vous.
Salut.
Salut.
Au typique.
Ah ouais. Ça va?
Écoute, oui.
Bon. T'as bien dormi?
Ouais, puis vous?
On s'est levé de bonne heure.
Ouais.
On regarde ce qu'on va faire à manger. La plancha, ça vous dirait?
Bah bien sûr. Mais faites vous embêtez pas. Hein.
Ben non, il y a des, tu vois, il y a un peu de poulet là. Il y a du mouton.
Je vais faire des épinards parce que on en a dans le jardin, c'est des épinards du jardin. Et des pois gourmands, tu sais ce que c'est?
Ah bah oui.
Il y a Carole qui vient cet après-midi.
Ah oui?
Ouais.
Ah bah on va être en famille alors.
Ouais.
C'est important pour toi la famille?
Bah bien sûr. C'est très important. Pas toi.
Si?
Si. Moi je trouve que le lien familial, c'est important, quand même.
Et c'est plus important que le lien amical?
Oh ben, les deux sont importants. Voilà. La famille aussi, il y a des fois qu'elle est un peu tordue.
Et votre famille, elle est tordue, à vous?
Parce que j'ai des cousines que je vois jamais. Alors, on ne sait pas pourquoi on ne se voit pas.
Quel est le lien le plus important, le lien de filiation ou d'alliance?
Bah, de filiation.
Pourquoi?
Oh, parce que les enfants qui sortent de votre ventre, très bien, c'est impossible de couper le cordon.
T'as pas coupé le cordon, en fait, hein?
Mais que si, j'ai coupé le cordon.
Non, tu viens de dire que c'était pas difficile de couper
non,
le cordon.
Non, mais entre nous, c'est vrai. Le cordon dans la tête. Il se moque de moi.
Mais non.
Non. Ah ben non. J'ai l'air. Est-ce que t'as l'impression que
je
me moque
de
toi?
Mais je te connais, hein, quand même.
C'est-à-dire?
Un petit peu comme ça.
Quoi?
Railleur, moqueur. Mais ton père est moqueur. Alors tu peux tenir ça de lui.
Avec moi, je suis un peu moqueur comme lui.
Oui, oui, voilà.
Hein?
C'est gentil.
Ouais.
Voilà. Parce que dès qu'il voit une personne qui est grosse, eh ben, tout de suite, il dit
quoi?
Il a dégraissé.
Ah ben moi, je dis pas ça.
Il dit quoi? Il met pas dedans.
Non. C'est fait, hein, c'est dedans.
Oh ben non.
C'est le bordel parce qu'il y a plein de noyaux ici. Alors j'en bave avec les noyaux. T'aimerais faire ça toi?
Il paraît que t'as cueilli plein de cassis.
De kaki?
De cassis.
Cassis, oui.
T'as passé la matinée à ça?
Oui. Matin à 6h, je suis allé cueillir des cerises chez Carbonneau. Et puis là, ben, je trie tous les noyaux. Parce que ça fait du jus comme ça. On vit pour notre famille. Hein? Puis vous? Vous vivez pour quoi?
Et vous ne vivez pas pour les amis?
Pour les amis?
Oui.
En deuxième?
La famille, c'est plus important.
Ah ben oui, ça passe avant, bien sûr.
On l'embête.
Santé.
Voilà.
Santé.
Santé.
Allez, à la famille.
Quand je suis né, moi, ton petit frère, quel souvenir t'as de cet événement?
Écoute, je me souviens pas précisément du moment où tu es né. Donc, j'ai un peu oublié. Je me souviens plus de moments où je me suis occupée de toi, j'ai joué avec toi, où je t'ai embêtée, surtout.
Mais avant de m'embêter, tu jouais avec moi, quand même.
Ah oui, oui.
Tu m'as pouponné.
Ah oui, 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 je pense. Je t'ai embêté aussi, quand même.
Oui, ça, je m'en souviens, en fait. C'est les moments de pouponnage dont je me souviens, moi.
Ah oui. Oui, parce
comment
que je t'ai...
Comment
j'embêtais?
Ouais.
Ben, je l'enfermais dans les placards. Je l'emmenais au grenier, et puis j'éteignais la lumière. Puis je lui disais que Dracula allait sortir. Je sais pas, voilà, c'était juste ça, hein?
Oui, juste ça.
Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà comment on s'y prend. La toute première fois, on hésite un peu. Quand on a pris le coup, c'est marrant comme tout. On pose une assiette sur une autre assiette, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La pile sur la tête, on enlève la main, puis on lève un pied en chantant ce refrain. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà comment on s'y prend. Sur le plan musical, sachez mes petits qu'avec du cristal, c'est bien plus joli. Vous posez un verre sur un autre verre, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. La pile sur la tête, on enlève la main, puis on lève un pied en chantant ce refrain. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan-pan cucu. Vaisselle brisée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan-pan cucu. Savez-vous casser la vaisselle à maman? Voilà, voilà comment on s'y prend. Pour la deuxième fois, papa s'est fâché. C'est vrai que la vaisselle, c'est pas bon marché. Prenez dans l'armoire un bocal de poire, puis un vase de chien, s'il ne reste plus rien. La pile sur la tête, écartez vos mains, puis levez une gambette en chantant ce refrain. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu. Vaisselle cassée, c'est la fessée. Vaisselle foutue, pan pan cucu.
Ma sœur.
La France a été condamnée 3 fois, non, qu'est-ce que je dis, 5 fois, pour ne pas avoir respecté le droit d'avoir une famille, ce droit qui est consacré par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'était essentiellement des cas d'enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui. La France condamne la gestation pour autrui au terme du principe d'indisponibilité du corps humain. Et dans notre code civil et dans notre code pénal, il est formellement interdit de recourir à la gestation pour autrui. Donc, les couples qui ne pouvaient avoir d'enfants d'une autre manière sont partis à l'étranger, là où la gestation pour autrui est autorisée, et ils ont eu un enfant. Et l'État français refusait de retranscrire l'acte de naissance de ces enfants. Okay. Donc, généralement, la gestation pour autrui, dans la plupart des cas, c'est la mère qui n'est pas fertile et le père qui donne son sperme. Et donc, c'est soit une mère porteuse, soit une personne qui porte l'enfant. Et donc,
on leur refusait quoi à ces enfants ? Leur identité ou la nationalité ?
Ben voilà, des droits. Des droits qui découlaient de... Parce qu'un enfant a des droits de par sa filiation. Sa filiation est paternelle et maternelle.
Quel type de droits ?
Ben, des droits à la succession, l'autorité parentale... L'ensemble des droits auxquels a droit tout enfant français. Et en l'occurrence, c'est pas si vieux que ça. Avant, dans les années 70, avant la loi Carbonnier, il y avait des distinctions entre enfants naturels, enfants adoptés, enfants d'un couple marié. Et évidemment, l'enfant naturel ou l'enfant adopté avait moins de droits, notamment pour la succession, que l'enfant issu d'un couple marié. Et c'est encore la Cour européenne des droits de l'homme qui est venue sanctionner la France pour cette distinction qui faisait effectivement une différence entre ces trois types de filiation. Filiation affective, filiation élective, filiation naturelle et filiation qu'on va dire classique entre guillemets, enfant issu d'un couple marié.
Mais c'est quoi filiation élective ?
C'est quand on a recours à l'adoption.
Et filiation naturelle ?
Bah, filiation naturelle, c'est hors mariage. Voilà. Et ça, effectivement, c'est pas si vieux que ça. Encore dans les années 2000, la France a été condamnée.
Et qu'est-ce qui s'ensuit pour ces enfants-là ?
Eh bien, la France ayant été condamnée, ils ont pu avoir les mêmes droits. La France a dû changer son système juridique. Elle a dû s'adapter à l'évolution de la société. Aujourd'hui, on n'a pas un mode privilégié de conception, on va dire. Heureusement qu'on reconnaît les familles monoparentales, les familles, les parents sont d'un même sexe. On reconnaît les parents qui ne sont pas les parents biologiques, mais les parents adoptifs. Mais on a encore du mal à reconnaître ce qu'on appelle la parenté. Ça m'échappe.
Issu de mère porteuse.
Voilà. Le parent d'intention. Voilà. La parenté d'intention. On ne la reconnaît pas encore complètement en France, puisqu'on condamne la GPA. Et la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt de juillet 2015, elle a enfin reconnu que la transcription de l'état civil de ses enfants. Donc elle a autorisé cette retranscription, mais elle n'a pas passé l'étape supérieure qui est de légaliser la GPA, la gestation pour autrui. Donc toute personne qui organiserait ou qui aurait recours à la GPA en France
serait coupable, mais l'enfant serait reconnu. Enfin, l'enfant aurait ses droits.
L'enfant a des droits, et c'est ce qui a innové dans le dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'elle elle se basait sur la convention qui reconnaît la convention de l'enfant, En fait, on appelle ça la Convention de New York, qui reconnaît l'ensemble des droits des enfants. C'est une convention qui liste les droits des enfants. Et donc, elle s'est basée sur cette convention pour condamner la France en disant que en ne donnant pas de lien juridique entre l'enfant et ses parents, qu'il soit d'intention ou biologique, elle privait l'enfant de ses droits, on va dire, primordiaux.
Merci.
Alors moi, il y a un moment que j'apprécie particulièrement, famille, c'est le moment des fêtes, quand on échange les cadeaux. Tu aimes ça, toi, Loïc ?
Les cadeaux ?
Oui.
Non, pas trop.
Ah. Pourtant, c'est un moment désintéressé, tu vois, c'est un moment intense, où surtout on ne compare pas ce qu'on est à travers le choix d'un objet, non ? Souvenez-vous, Clapiche, Jaoui, Bakri, Un air de famille, un film de 1996.
Je peux commencer à ouvrir?
Bien sûr, allez-y, c'est fait pour. Ouvrez celui-là d'abord, le petit, là. Ouais, ça, c'est mon cadeau.
Oh, qu'est-ce que c'est?
Bah, tu vois bien ce que c'est, chérie.
C'est un chien en photo.
Tu fais une collection de photos, tiens?
Non, justement, pas du tout. C'est un bon pour...
Retirer.
Un bon pour retirer un chien au chenil Les Pas Perdus, 57 boulevard des Parloirs, 45 000. Mais comment ça s'entretient?
Tu l'arroses une fois le matin, je crois.
Ça te fait pas plaisir, tu fais une drôle de tête.
Surprise.
Oui, voilà, je suis surprise, non, mais...
Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens, j'ai toujours vécu avec des chiens. Et un chien ne vous décevra jamais.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai.
Oui, ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé, personne ne m'a compris, comme Freddy.
C'est une laisse.
Ah. Oui, j'ai vu.
Et les clous, là, ils sont plaqués argent.
Oh. Encore une laisse.
Eh non, c'est un collier, chérie.
C'est beaucoup trop luxueux pour un chien.
Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi.
Merci, mon chéri, merci, je...
C'est un collier pour femme.
Je vais le mettre tout de suite.
Ah ben, vous avez de la chance, vous savez, c'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné.
Ben, il faut avoir de l'argent, c'est tout. Il n'avait pas d'argent, papa. T'aurais voulu quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit?
Enfin, Henri, qu'est-ce qui te prend? Qui parle de ton père?
Ouais.
Tu n'es pas dans ton assiette, je le comprends très bien, mais je ne suis pas responsable, moi. Alors domine-toi, s'il te plaît.
Vous voyez bien, c'est fabuleux, la famille. Alors, on est content de terminer cette émission avec un son de Ben sur la famille du Cirque Plume. C'est une immersion avant et pendant et après la représentation. Sans dévoiler vraiment le contenu, c'est l'histoire d'un spectacle, la dernière saison.
Bonsoir.
il y a un inconnu.
Il
est inconnu.
Le deux côté, c'est.
Il est inconnu.
Mademoiselle. C'est bon. Bip. Voilà.
Il est inconnu.
Vos effets sous le gradin, vos habits, vos portefeuilles, votre montre, n'allez pas les chercher, ils le feront pour vous, vous pourrez les récupérer à la fin du spectacle. Pour les téléphones mobiles, c'est comme partout, merci de les éteindre, et n'oubliez pas qu'un écran allumé, j'ai... Pardon de ne pas en faire. Merci, bonne soirée, bon spectacle. Fraternité.
Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait, tu es belle, après comme avant. Il descendait la poubelle, repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé, c'était grâce à Marie-Vonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma mère, ma femme est une matrone, il avait dit. Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Vonne est un vrai boudin, tandis toujours elle me cramponne et ça me dit rien. La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé, Marie-Vonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma femme est une matrone, il avait dit. Le mari de Marie-Vonne n'est plus mon amant, comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Mon Marie-Vonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Vonne m'apprend ce midi, sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter, il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti, ma mère est une bonne, il avait dit. Le mari de Marie-Vonne a pu se recaser, c'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début, tout feu, tout braise, il sera gentil, quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira, tu es belle, après comme avant, il descendra la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer, quand il lui dira, bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marie-Vonne, on l'a bien dit à Sophie, on t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver, toute une colonie de vacances. Ouh. on va bien s'amuser.